Bonsoir à tous. La Grenouille est en direct des Docks des Suds à l'occasion de la 4e édition d'Amnésie Internationale. Alors Amnésie Internationale, c'est une manifestation qui est organisée tous les 2 ans par la jeunesse arménienne de France. Et l'idée, c'est de mêler concerts et réflexions autour des génocides, de la mémoire et de la justice, avec cette année un accent particulier sur la question de la mobilisation citoyenne. Alors nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau tout un panel d'invités, des artistes, des chercheurs et des militants associatifs, issus notamment des communautés arméniennes, cambodgiennes et rwandaises. Alors pour commencer, nous avons parmi nous Julien Dikran Arounian, président de la jeunesse arménienne de France. Nous avons aussi Sevan Garibian, juriste, Ouria Mekrelouf du MRAP de Marseille et Isabelle Marillier du Média en ligne Yevrobati. Alors, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Prenez les micros, je vous en prie.
Bonsoir.
Alors, Julien Dikran Arounian, on va commencer par toi, puisque c'est toi un peu organisateur, on peut dire comme ça, de l'événement.
Oui, c'est la jeunesse arménienne de France et tout le comité de pilotage, puisqu'on est une équipe d'une vingtaine de personnes à travailler depuis un an sur ce projet-là. Et c'est vrai que ce soir, c'est l'aboutissement de cet événement Amnésie Internationale pour sa 4e édition.
Et comment est née alors Amnésie Internationale ?
Alors Amnésie Internationale est née il y a 7 ans de la réflexion que nous faisions à l'époque, c'est-à-dire trouver un nouveau moyen d'arriver à communiquer sur le thème des génocides. Puisque nous sommes une association arménienne et que nous militons pour la reconnaissance génocide arménien, mais très vite, on s'est rendu compte que d'être seul dans son combat ne ferait pas forcément avancer plus vite la cause et les causes. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul, justement, et qu'au contraire, il fallait commencer à travailler avec ces autres peuples aussi qui avaient subi un génocide. Voilà un petit peu d'où est née cette réflexion-là de la genèse du projet.
Et pourquoi Marseille ?
Alors, pourquoi Marseille ? Parce que, justement, Marseille, c'est le berceau, on parle souvent de Marseille, cette terre d'accueil pour beaucoup d'immigrés, pour les immigrés arméniens notamment, c'est le cas. Il y a également une grosse communauté juive à Marseille. Et c'est très souvent de Marseille que partent ces messages de fraternité et ces messages d'espoir, de paix, de tolérance.
Donc tu disais, effectivement, Amnésie Internationale, c'est loin d'être un événement proprement arménien. Ici, au Doc des Suds, il y a un espace qui est dénommé le Village de la Mémoire, où sont installées des associations arméniennes, mais pas seulement, loin de là, puisqu'on trouve Mémoire de Tzigane, la LICRA, donc la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme, Survie 13, le CRIF, donc le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France, Mémoire pour la Paix, le MRAP, j'en passe aussi. Hein. Et donc, justement, Ouria Mekrelouf, la présidente du MRAP de Marseille, nous a fait le plaisir de se joindre à
oui.
nous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Ouria, pourquoi le MRAP participe à Amnésie Internationale ?
Alors, le MRAP a toute sa place ici, puisque je rappelle quand même que le MRAP, ça veut dire le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, qui est né entre 1939-1945, c'est-à-dire pendant la période de guerre. Et c'était au départ, c'était un mouvement clandestin qui était mené par des militants et par des gens qui avaient fui les exactions nazies, les pogroms, etc., et qui, en France, se sont installés de façon clandestine et qui sauvaient au maximum, au nord et au sud de la France, le maximum d'enfants juifs de l'extermination. Et le MRAP puise son histoire là. Ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes qui, un jour, ont dit non au racisme, non au nazisme, et qui ont payé d'ailleurs de leur vie. Et au sortir de la guerre, ces survivants, en 1947, ont décidé de créer le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et ça a été cette phrase qui disait « plus jamais ça ».
Et donc toutes les associations qui sont ici présentes luttent de près ou de loin contre le négationnisme. Alors je vous propose d'écouter l'historien Yves Ternon, qui est là ce soir et qui a été invité par Amnésie Internationale la semaine dernière.
C'est ça, il est... Yves Ternon, avec l'ERCRIJ, sont nos deux partenaires moraux d'Amnésie Internationale. Ils nous suivent depuis la première édition en 2001. Et dans le cadre d'Amnésie Internationale 4e édition, nous avons organisé Amnésie fait du bruit, pour en quelque sorte amener l'événement de ce 22 mars. Et Amnésie fait du bruit, il y avait une partie concert musical au cabaret aléatoire de la Friche, où d'ailleurs il y avait un splendide plateau grenouille, et également organisé à la faculté de droit une conférence par le docteur Yves Ternon.
Et donc je vous propose de l'écouter, Yves Ternon, spécialiste, historien spécialiste du génocide arménien.
Je considère que quand un peuple a dans son histoire un événement aussi terrifiant qu'un génocide, qu'il se revendique comme l'héritier de cet empire. Car il ne faut pas oublier que l'Empire ottoman est un empire dont l'héritage pourrait très bien être partagé par une quinzaine de peuples dans la région d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Hein ? C'est comme quand il se revendique comme l'héritier de cet empire, il doit en assumer toute l'histoire. Et aussi bien que l'occupation de Chypre par la Turquie, l'annexion donc de Chypre Nord par la Turquie, que le génocide des Arméniens sont des faits d'histoire qui supposent une reconnaissance par le gouvernement turc. Et je ne comprends pas que, alors que tout le monde sait qu'il s'agit d'un génocide, que l'on discute encore de ce fait et que l'on en fasse un outil de politique. C'est un événement qui a eu lieu. Moi, je ne transige pas là-dessus. Je sais qu'il y a actuellement en Turquie des gens qui soufflent le chaud et le froid. C'est-à-dire des gens qui disent, bon, ben d'accord, vous les Arméniens, vous êtes fixés sur génocide. Nous, les Turcs, on ne veut pas de génocide. Moi, je répondrai ceci. D'abord, le génocide des Arméniens n'est pas l'affaire des Arméniens, mais de toute l'humanité. Je ne veux pas qu'on en fasse un dialogue entre Arméniens et Turcs. Premier point. Deuxième point. Dire que ce n'est pas un génocide parce que la Turquie n'a pas compris ce qu'est un génocide. Que pour eux, il n'y a que la Shoah qui est un génocide parce qu'on a tué les Juifs parce qu'ils étaient Juifs. Et qui dit on n'a pas tué les Arméniens parce qu'ils étaient Arméniens. Si, on a tué les Arméniens parce qu'ils étaient Arméniens, mais on ne les a pas tués au nom d'une race essentiellement comme on l'a tué les Juifs. On les a tués au nom d'une idée nationale. C'est tout. La Turquie est aux Turcs. On peut ajouter un facteur racial, bien entendu, une composante, mais elle n'est pas dominante. Donc si vous voulez, tant qu'il n'y a pas une clarification sur cette idée... Je pense que l'Assemblée des Nations Unies se trompe si elle n'exige pas qu'il y ait reconnaissance du génocide. L'Union européenne se trompe si elle n'exige pas qu'il y ait reconnaissance du génocide. C'est un point de vue très, très dur, je reconnais, qui est le point de vue d'un historien qui a tiré ses conclusions, comme des centaines d'autres d'historiens spécialistes de ces questions, et qui ne voient pas comment on pourrait les discuter comme une négociation, comme un compromis. Il n'y a pas de compromis sur une vérité historique établie au-delà d'un doute raisonnable, comme disent les juristes, en tout cas sur la dénomination de l'infraction. Car si cette infraction-là n'est pas un génocide, qu'est-ce qu'un génocide ?
Alors, comme le souligne l'historien Yves Ternon, le négationnisme perdure en Turquie, mais certains intellectuels turcs luttent au péril de leur vie pour la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie. Alors, pourquoi Amnésie International n'a pas invité de Turcs progressistes ?
Amnésie International avait dans sa première avait l'intention et a même invité des intellectuels turcs et notamment, je pense à Orhan Pamuk aujourd'hui, à venir justement pour participer à ce meeting-là. Le problème qu'il y a, c'est que ces intellectuels-là sont aujourd'hui victimes d'énormes pressions de la part des Turcs et du gouvernement, et que donc ils sont obligés très souvent de se cacher. Aujourd'hui, on voit très bien, depuis l'assassinat de Hrant Dink, qui était un de ses porte-drapeaux, intellectuel porte-drapeau, journaliste du journal turc Agos, qui militait pour cette reconnaissance du génocide arménien, qui a été assassiné. Depuis, les intellectuels turcs sont de plus en plus prudents et prennent d'énormes précautions. C'est pour ça que c'est très très difficile de les avoir, de pouvoir les faire venir aujourd'hui.
Et Isabelle Marillier, tu es co-rédactrice en chef donc d'un média en ligne de la communauté arménienne qui s'appelle yevrobatsi.org. Alors, toi tu connais bien ce dossier des intellectuels turcs progressistes. Tu peux nous en parler un peu ? Là, Dikran évoquait Taner Aksam, c'est ça ? Qui.
Il a parlé de Pamuk et Taner Aksam, c'est complètement différent. Taner Aksam est actuellement aux États-Unis et il y a eu l'an dernier, justement, suite en plus à l'assassinat de Hrant Dink, toute une série d'articles diffamants et menaçants aussi de mort. Il y a eu des articles qui ont été mis sur le Wikipédia américain et notamment au Canada où on l'a fait passer pour un terroriste. Et donc, il a été arrêté à la frontière canadienne. Et il a fallu pendant des heures et des heures. Il attendait, il ne savait même pas pourquoi il était là et pourquoi on l'a arrêté. Et donc, tout ça, parce que bon, il y a tout un système qui est mis en place au niveau de l'État turc, quand même, sur les sites internet. Il y a un argent fou qui est mis à ce niveau pour faire. Donc, il a été arrêté à ce moment-là et Taner Akşam ne pouvait plus se déplacer. Bon, il y a eu un comité de soutien qui s'est monté par rapport à Taner Akşam, justement. Dont je fais partie, où on a eu des députés européens qui se sont prononcés, on a eu une réponse de la communauté européenne, et ce matin, une réponse de Kouchner, qui est un peu en contradiction, mais on en reviendra peut-être tout à l'heure au niveau juridique, dans la mesure où il dit que la France reconnaît le génocide arménien, et après appelle à la commission mixte turc-arménien sur l'histoire. Mais il existe quand même... Bon, je modère un peu ce que dit Dikran, parce que... Bon, Taner Akşam aurait pu venir, il se trouve qu'il avait un emploi du temps qu'eux. Mais il y a d'autres personnes qui prennent des risques, qui savent très bien où ils en sont. Bon, je peux parler de Rajib Zarakolu, il est immensément connu, je veux dire, tout le monde le sait. Il y a aussi, en ce moment, toute une pétition qui circule en Turquie par rapport à un gars qui s'appelle Emet Demirel, parce que bon, il y a eu la commémoration de l'assassinat de Rangink au mois de janvier. Et cet écrivain turc a dit clairement et publiquement: je vais tous les jours violer le fameux article 301, qui est donc l'article qui fait atteinte à l'identité turque si jamais on parle du génocide, etc. Et donc cet écrivain, tous les jours, sort une phrase par rapport au génocide, sort une phrase qui viole l'article 301. Bon, et donc là, maintenant, il est menacé de prison. Bon, il y a comme ça beaucoup, beaucoup d'autres Turcs. Bon, il se trouve qu'ils sont dans d'autres pays, comme Ali Ertem, comme Yelda Özgan, etc. Bon, des gens, c'est vrai qu'ils subissent des pressions, mais qui auraient peut-être pu venir, ou en tout cas, je pense... On aurait peut-être aussi peut-être faire. Enfin, c'est la JAF qui décide, mais moi je le dis en tant que citoyenne aussi, et comment je le perçois. D'ailleurs, par exemple, moi j'avais proposé aussi qu'une femme comme Tessa Hoffmann, qui est en Allemagne, qui est une Allemande, qui se bat pour la reconnaissance, qui fait un projet de loi pour la pénalisation, etc. Je veux dire, c'est important, compte tenu de la communauté turque qui existe actuellement en Allemagne, que des gens comme ça se battent et tout. Et ça aurait peut-être été un plus par rapport à l'ensemble de tous les génocides. Bon, mais c'est juste une supposition. Bon, c'est une proposition hein, qui peut être retenue ou pas retenue, mais je veux dire, bon. Mais les démocrates turcs, il y en a beaucoup plus que ce qu'on sait, et je pense qu'il y en a qui sont très conscients de leurs risques. Bon, par exemple, moi je suis en relation avec Saïd Setinoglu, qui est un gars qui vit à Ankara, qui m'envoie régulièrement des articles, et qui m'envoie des photos, et qui a accepté que je mette son nom en toutes lettres sur le site. Donc, je veux dire, et on sait que les sites sont lus par tout le monde. Je veux dire, bon, tous les sites arméniens, ou même s'ils sont ouverts sur d'autres choses, sont lus par. Et épluché, ça c'est certain. Et donc cette personne a accepté ces risques. Ils sont très conscients de ce qui court, je veux dire. Il y a en ce moment quand même certains démocrates turcs qui, je pense, bon, qu'on aurait peut-être pu solliciter.
Je vous invite, Isabelle, à la prochaine édition d'Amnésie à venir, ou même dans le cadre de Yevrobati, à inviter ces intellectuels turcs. Et c'est avec grand plaisir qu'on soutiendra l'opération.
C'est bien parce que je t'avais dit un jour, je veux te voir parce que j'ai un projet là-dessus.
Ça reste très compliqué quand même, je peux le dire, d'avoir des intervenants et surtout d'avoir un plateau qui est équilibré. Oui, parce qu'il faut bien encadrer Amnésie, là on parle beaucoup du problème turc, mais c'est très important de considérer qu'Amnésie internationale dépasse la cause arménienne. C'est pour ça qu'il faut aussi arriver à trouver des intervenants qui soient spécialisés après dans chaque cause génocidaire et viennent un petit peu apporter. Je dirais un nouvel éclairage. C'est ce qu'on est en train de voir actuellement, là, ce soir, avec le meeting. C'est Jacky Mamou, le président du collectif Urgence Darfour, qui a ouvert ce meeting-là, justement, par la question du Darfour, qui est le génocide qui est en train de se passer sous nos yeux.
On en reparlera tout à l'heure, justement, du Darfour. Mais alors, le sous-titre d'Amnésie internationale, c'est la mobilisation citoyenne. Là, tu parlais du meeting qui se tient en ce moment même, pendant que nous, on est là, sur le petit plateau. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce dispositif qui est quand même un grand show avec des personnes très médiatiques, hein, donc Bernard-Henri Lévy entre autres, et le sous-titre mobilisation citoyenne?
Non, parce que il n'y a absolument aucune contradiction. Alors, grand show, c'est vrai que cette année nous avons la chance d'avoir M. Bernard-Henri Lévy qui est une personnalité éminemment reconnue. C'est une chance, mais il n'empêche que nous avons accès toute la campagne sur Amnésie internationale sur cette mobilisation citoyenne. Aussi bien dans le cadre de nos bénévoles, dans le travail, comment est-ce que l'événement a été annoncé, nous avons voulu créer une mobilisation citoyenne. Et ce soir, quand les gens rentrent dans le Dock des Suds, ils vont de suite sentir cette mobilisation. On va essayer de les inciter à cette mobilisation citoyenne par de la distribution de badges, par des t-shirts, par le mur de la mémoire. Il y a des photographes qui vont circuler, qui vont prendre en photo ces gens et pour les projeter sur les écrans. On va essayer d'inciter pour que le spectateur, le citoyen qui va rentrer dans les médias internationaux, il ne faut pas se leurrer. Il y a le citoyen qui vient pour écouter le meeting, il y a celui qui va venir pour les concerts, il y a celui qui va venir ici par hasard. Mais tous, lorsqu'ils repartiront d'Amnésie internationale, auront été sensibilisés à la cause. C'est pour ça que le rôle du village de la mémoire est très important là aussi.
Excusez-moi, juste une petite remarque. Enfin, pour la mobilisation citoyenne, moi, il me semblait qu'il y avait un débat donc, avec les personnes et qu'il y avait un débat avec la salle. Voilà. Donc, je suis un peu surprise que ça ne se fasse pas. Bon, ben. Et la deuxième chose, peut-être un peu pour appuyer ce que disait Isabelle sur la diversité, ça aurait été bien, évidemment, des démocrates turcs qui en a. Et je pense qu'il faut, dans tous les pays, justement, soutenir toutes les expressions démocratiques. C'est très important. Et notamment dans ces pays-là où, justement, les États sont terribles hein, pour les démocrates. Et je terminerai aussi par donc inviter des gens. Mais bon, le plateau, il n'y a que des hommes. J'aurais aimé qu'il y ait des femmes aussi. Voilà.
Mais ici, on a beaucoup de femmes.
Suis en minorité.
On essaie de rééquilibrer, oui, mais ça aurait été bien là, sur le plateau, qu'il y ait vraiment des femmes. Voilà.
Alors, il y en a eu quand même les années précédentes. Il y en a toujours eu des femmes.
Mais... En fait, non, il faut tout le temps. Je veux dire pas, il faut. Enfin, excusez-moi, mais je crois que quand on doit avoir des discussions comme ça, il faut qu'il y ait aussi des femmes. Voilà.
Isabelle, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, je ne vais pas revenir sur les femmes parce qu'ils savent très bien ce que j'en pense. Mais c'est sur la mobilisation citoyenne, parce que bon, moi. Bon, je l'ai toujours dit, moi j'ai renoué avec la communauté arménienne par rapport à première amnésie internationale, parce qu'en fait on sortait du cercle arméno-arménien. Donc ça c'était excessivement important. Voilà. Mais je veux dire, il y a toujours eu, c'est pas la première fois où il y a un concert à la fin, etc. Et tout, je veux dire, bon, à part qu'on va projeter des images, des photos ou quoi, je veux dire, donc cette mobilisation, elle y était. Mais ce qu'il y avait d'important, et moi je le dis parce que je trouve qu'il y a une contradiction, franchement, je trouve qu'il y a une contradiction en parlant de mobilisation citoyenne et qu'il n'y ait pas de réactivité et qu'on assiste à une grand-messe, entre guillemets, avec tout ce que, sans être péjoratif, je veux dire que bon, les interventions qui sont faites sont de qualité, je veux dire, bon, on ne va pas remettre en cause ni BHL, ni Ternon, etc. Et tout, je veux dire, là n'est pas le propos, mais dans la mesure où on se sent citoyen, donc quelle est cette mobilisation? Elle commence aussi par ça, c'est-à-dire recevoir une information, comment on se l'accapare et comment on essaie d'approfondir, d'avancer. Bon, et ça je pense que c'est important. C'est important que les gens ne sortent pas comme ça de la salle, peut-être avec des questions restées en suspens et que peut-être ils auraient voulu avoir certaines réponses.
Je vais répondre quand même, parce que je vois que c'est un problème qui vous soucie, qui soucie Yvon Bassi et le MRAP. Sur la mobilisation citoyenne. En tant que citoyenne. Sur la mobilisation citoyenne, on assiste à l'heure actuelle à un débat à la salle juste à côté où nous avons 600 personnes. 600 personnes pour un meeting comme celui-là. 600 chaises assises, vous pouvez les compter, Isabelle. Je veux dire, alors c'est très compliqué à faire. On s'est sûr que d'habitude, on avait l'habitude de faire un échange. Il y avait des questions du public. Ça fait 7 ans que vous amenez-y, il y a toujours eu ces questions du public. Cette année, on a choisi la formule meeting justement parce que. Nous avons voulu créer quelque chose de différent, avoir un autre type d'échange avec les gens, et puis de se rendre compte que la mobilisation citoyenne, elle commence par recevoir l'information et par échanger. Mais quand les gens sortent du meeting, il y a quand même les stands associatifs. Quand je vois que le stand de Survie 13 est là, là l'échange se fait aussi sur cette découverte, cette connaissance. On est là pour faire une mobilisation citoyenne, pour avant tout déjà sensibiliser un public. Il y a des gens qui ne sont pas au même degré d'information non plus pour autant. Donc il va y avoir la personne qui va vouloir échanger et discuter, et elle pourra le faire avec les intervenants qui sont accessibles après, peut-être que M. Lévy sera un peu plus difficile. Et après, il y a aussi toutes les personnes qui vont découvrir Amnésie internationale. Et avant tout, c'est ça. C'est de là, par là aussi qu'elle passe cette mobilisation citoyenne. Alors on aurait pu penser, poser des questions, on aurait pu avoir un autre échange. Et là, en même temps... À chaque atelier, tous les ateliers qui sont mis en place, même le plateau Grenouille est là où nous sommes, nous débattons, nous discutons, et c'est là aussi la mobilisation citoyenne. Elle est à plusieurs niveaux. cette mobilisation.
Je vous propose de faire une petite pause en avant-goût d'un des concerts de tout à l'heure. On va écouter Charlélie Couture, une certaine lenteur rebelle qui est extrait de son dernier album, New Yorker.
Certaines lenteurs rebelles, c'est comme le jour qui se lève avant que les guerriers d'Halloween ne retournent à leur rêve. Une certaine lenteur rebelle, entre attentats et chagrin, quand on cherche les boîtes noires dans le fond d'un ravin. Prendre le temps de respirer à fond, nier l'évidence, écouter le silence. Certaines lenteurs rebelles au milieu du grand bordel, c'est comme danser sur la table au milieu des prix Nobel. Apprendre ses répliques par cœur dans des décors éclairés, ou se laisser aller en douceur sous un olivier. Prendre le temps de boire un dernier verre à la santé des ours blancs, ou ranger ses affaires avant un ouragan. Hold back time. Certaines lenteurs rebelles, c'est comme cette goutte de pluie qui s'écoule sur la vitre devant le pont de Brooklyn. Une certaine lenteur rebelle, c'est manger des fruits encore verts et reconstruire sa vie entre murs et murmures. Refuser de courir après deux lièvres à la fois, refuser de vieillir comme ces femmes de cire. Ralentir coûte que coûte, freiner le processus ou enfouir ses doutes sous les racines d'un cactus. Hold back time. Why don't you hold back the time? Hold back time. Why don't you hold back the time? Hold back the time.
Alors, c'était donc Charlélie Couture, une certaine lenteur rebelle. La grenouille est toujours en direct des Docks des Suds pour Amnésie Internationale. Nous avons sur ce plateau aussi Sévan Garibian, qui est docteur en droit à l'Université de Paris 10.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, Sévan, en 2001, la France a reconnu par une loi le génocide arménien de 1915. Où ça en est juridiquement depuis ?
Alors, ce qu'il est important de rappeler, c'est que l'adoption de cette loi par le Parlement français a évidemment un impact symbolique énorme, mais d'un point de vue strictement juridique, telle qu'elle est rédigée, cette loi ne peut pas être utilisée, donc je dis bien telle qu'elle, par un juge pénal. Autrement dit, elle a une portée déclarative très forte, politiquement et symboliquement très importante, mais pratiquement parlant, aucun juge français aujourd'hui ne pourrait l'utiliser uniquement, exclusivement, comme ça, ce texte tel quel, pour une action en justice. Alors, ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'il y a eu des suites à cet événement législatif et qu'a été adoptée en octobre, le 12, si je me souviens bien, le 12 octobre 2006, une proposition de loi qui est passée à l'Assemblée nationale à propos de la pénalisation de la négation du génocide arménien. Donc ça, c'est une suite, en fait, législative qui est fondamentalement importante parce que là, pour le coup, cela donnerait les moyens à un juge pénal de lutter contre le négationnisme dont, que subit le génocide des Arméniens, et qui est un phénomène qui s'accentue très fortement en France, pour ne pas parler d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis c'est aussi malheureusement le cas, mais là il s'agit de voir ce qu'on peut faire sur le territoire français. Donc je rappelle, sans rentrer dans des questions techniques, juridiques, qu'il s'agit d'une proposition de loi. Donc elle a été adoptée par la Chambre basse, l'Assemblée nationale, encore s'agit-il maintenant qu'elle soit adoptée par les sénateurs. D'accord ? Donc la procédure est on est dans l'attente de voir ce qui va se passer, donc il faut encore que ce texte passe, cette proposition passe devant le Sénat pour devenir une loi. Auquel cas, je pense que ce serait un pas juridique énorme de pouvoir étendre le champ de la protection juridique de la mémoire des génocides, puisque vous savez qu'il existe aujourd'hui la loi Guesso qui permet la protection de la mémoire de la Shoah, mais de la Shoah exclusivement. Or, la question se pose aujourd'hui, je pense, au regard de la réalité du phénomène négationniste sur le territoire français, de la protection de la mémoire du génocide des Arméniens et pourquoi pas peut-être d'autres génocides. Mais bon.
Alors justement, et là je vais poser la question à tout le monde, il y a des génocides avérés historiquement, on entendait tout à l'heure l'historien Yves Ternon, et est-ce qu'il n'y a pas aussi, après il y a des massacres qui se passent actuellement, est-ce qu'il n'y a pas surenchère dans l'emploi du terme de génocide, comme si c'était nécessaire pour générer une réaction de la communauté internationale ?
Est-ce que permettez-moi juste de dire une chose, quand j'entends le mot massacre, à chaque fois j'ai un petit peu les poils qui se hérissent sur la peau, parce que c'est typiquement la rhétorique négationniste, lorsque l'on parle de crimes de masse, de parler de massacre, d'ailleurs comme si c'était moins grave, entre parenthèses, alors que ça l'est absolument pas, mais parler de massacre, c'est souvent un moyen d'éviter par exemple le mot génocide. Donc je pense que tu parlais du Darfour là par exemple, c'est vrai qu'il y a un débat sur la question de savoir s'il s'agit de crimes contre l'humanité ou de génocide.
Est-ce que des historiens ont pu prouver et...
Ben, ils y travaillent pour le moment, mais avant les historiens...
Il y a le recul encore nécessaire pour...
Mais je pense.
Avant de répondre, peut-être qu'on va écouter Yves Ternon, justement, qui expliquait un peu sa position sur le Darfour, et qui doute quand même, qui dit ça, que les historiens n'ont pas eu le temps d'avérer qu'il était question de génocide.
En ce qui concerne le Darfour, moi, je travaille sur des documents. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent au Darfour. Alors, si on me demande, d'après les documents dont je dispose, s'il s'agit d'un génocide, j'en sais rien. Mais si je veux me prononcer et que je dis que c'est un génocide, j'aime mieux me tromper. Et que ça puisse éventuellement, par la modeste voix que j'élève, aider une action internationale pour sauver des gens, tant mieux. J'ai fait la même chose pour le Kosovo. Je me suis complètement gouré parce que je n'avais pas mesuré l'action militaire et dure et criminelle parfois de l'Ouseka. Mais on s'est dit, on est en train de tuer des Albanais, faisons quelque chose. Donc on s'est trompé. De même pour les Tchétchènes, on a eu des interventions des Tchétchènes. Je me rappelle dans un colloque à Berlin où des Tchétchènes sont venus nous dire « Mais vous causez, c'est bien, vous êtes intelligent, vous causez, mais nous on meurt. Est-ce que c'est un génocide ?» Ben, je leur ai fait la même réponse. Moi, il me faut quelques documents, quelques trucs. Je peux pas sur les informations dont je dispose, n'ayant d'ailleurs aucun moyen d'action, n'étant qu'un simple chercheur, je peux pas dire. En tout cas, je vais pas dire des bêtises.
Isabelle, tu veux réagir ?
Oui. C'est vrai qu'en plus, ça dépend si on se place du point de vue juridique, ou du point de vue de l'historien, ou du point de vue philosophique. Donc, je veux dire, il y a plusieurs concepts qui à ce point-là, parce que si on se réfère par exemple aux écrits de Samelin qui parle donc justement des massacres et puis on monte etc. pour aller jusqu'au génocide, et est-ce que le génocide tel que le conçoit le juriste est exactement le même que l'historien etc. Donc il y a tout un débat qui a lieu actuellement. Bon, le problème c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de banalisation d'un mot terrible quand même, parce que génocide c'est quand même l'acte suprême, je veux dire. On ne peut pas aller au-delà. Et donc, bon, même si c'est pour des nobles causes, c'est-à-dire faire ça, qu'on puisse sauver des vies humaines, etc. Est-ce que dans l'opinion publique, justement, et là on revient à la mobilisation citoyenne, est-ce que dans l'opinion publique, le mot de génocide n'est pas trop banalisé? Parce que bon, la mobilisation citoyenne, c'est aussi faire de l'éducation. Et ça, c'est très important, c'est excessivement important. Je dirais, bon, il y a peut-être une action, moi, jeune, venant de pas très longtemps de la Côte d'Arménienne, peut-être d'aller, je ne sais pas, peut-être au CG, faire des mallettes pédagogiques, aller dans les collèges, intervenir, etc., notamment dans les classes de 3e, 4e, etc. Ça, ça fait partie de la mobilisation citoyenne. Mais donc, moi, la question que je pose, justement, c'est bon, ce sont deux approches différentes entre les juristes qui prennent la Convention de 48, hein, comment a été défini un génocide au niveau de l'ONU, etc., et comment les historiens, eux, peuvent aussi l'interpréter, et peut-être dans un sens plus large. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut discuter. Et puisque je profite qu'il y ait ces vannes, donc il y a des connaissances en droit que je n'ai pas, je veux dire, bon, il semblerait que c'est quand même... Bon, c'est la Cour internationale juridique qui, bien que consultative, définit quand même le premier échelon pour dire si c'est génocide ou non. C'est-à-dire que le droit prime à ce moment-là, par rapport à l'histoire, etc.
C'est ah ça. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je crois qu'il est important, puisqu'on en parle, de rappeler non pas la définition du génocide en droit dans son intégralité, parce que ce serait long, mais les éléments clés de la définition juridique du génocide, donc définition sur laquelle tous les juristes s'accordent, parce que d'ailleurs c'est la même depuis la Convention de 48. Aujourd'hui, les tribunaux pénaux internationaux travaillent sur cette même définition. Hein. Donc depuis 48, on utilise la même. L'élément fondamental de la définition du génocide est l'intention, qui est une intention spécifique par rapport, par exemple, à celle du crime contre l'humanité ou du crime de guerre, qui est la suivante, l'intention de détruire intégralement ou partiellement un groupe d'une population civile, un groupe ciblé, selon des critères discriminatoires, bien entendu, d'une population civile, que ce soit dans le contexte de la guerre ou en dehors du cadre de la guerre. Donc, cette intentionnalité particulière est vraiment l'élément clé pour comprendre le sens, la signification juridique accordée au génocide. Cette intention particulière de destruction totale ou partielle d'un groupe particulier n'est pas exigée dans la définition du crime contre l'humanité. Mais je voudrais juste dire une chose. J'entends bien qu'effectivement, il y a la peur, la crainte ou les effets pervers potentiel d'une banalisation de l'usage de ce concept juridique. Mais il y a une autre crainte, je pense, qu'il faut rappeler, c'est que, à force d'avoir peur de banaliser l'usage de ce concept, je pense qu'on en revient à faire autre chose, un autre type de banalisation, qui est banaliser l'horreur des crimes contre l'humanité, parce qu'on est quand même en train de parler, que ce soit l'une catégorie ou l'autre, d'horreur, je veux dire, de crimes d'État, de crimes massifs, horrible, et je crois qu'il faut juste remettre les choses en perspective, parce que c'est comme si on disait, ouais, génocide, c'est vraiment terrible et tout, crime contre l'humanité, bon, c'est beaucoup moins grave, mais on est en train de parler de choses terribles, hein, dans tous les cas, il faut juste remettre, voilà. Mais bien évidemment que la définition du génocide est plus restrictive, et puis, juste un petit rappel, c'est que les crimes aujourd'hui considérés comme les plus graves, les crimes internationaux les plus graves, le noyau dur des crimes internationaux les plus graves selon les juges internationaux sont crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Et dans ces trois catégories de crimes, la jurisprudence récente des TPI et donc des tribunaux pénaux internationaux établit clairement que le génocide est effectivement, on utilise le terme, le crime des crimes. Donc ça, oui, ça c'est d'un point de vue strictement juridique.
Est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas une utilisation quand même à tout va du terme génocide pour faire que la communauté internationale réagisse et évite des crimes d'horreur, on est d'accord, hein, et est-ce qu'au-delà de un des effets pervers qui peut être la banalisation, est-ce qu'un autre effet pervers ne peut pas être d'entraîner des coups de folie de la part de, par exemple, avec de néo-missionnaires comme ce qu'on a vu, l'Arche de Zoé au Darfour?
Écoute, je pense que la raison pour laquelle... Il peut être utile, je dis bien entre guillemets, hein, d'utiliser le mot comme ça, symbole génocide, c'est pour secouer en fait les politiques, pour avoir une réaction au niveau international. Mais là aussi, je tiens à préciser que ce n'est pas qu'en cas de génocide que la communauté internationale a légalement l'obligation de réagir. Ça aussi, il faut le rappeler. Parce que ce serait tellement facile de dire pour le Conseil de sécurité, c'est pas un génocide, donc de toute façon, on ne réagit pas. C'est pas vrai. Les textes internationaux qui existent aujourd'hui, la charte de l'ONU, permet un fondement légal à des interventions en cas de violation grave du droit international humanitaire. Crime contre l'humanité, par exemple, c'est le cas. C'est pour ça que le débat entre au Darfour, est-ce que c'est un crime contre l'humanité ou un génocide, c'est un vrai débat, ça peut être un débat de chercheurs, scientifiques, etc. Mais en attendant, c'est certainement pas en disant que c'est pas un génocide que ça va dédouaner les politiques de toute réaction. Ça, c'est important de le rappeler. Quant à la question de savoir si je pense que ce mot est bradé ou utilisé trop facilement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'ai du mal à me prononcer là-dessus parce que, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'être dans la position de dire qu'on utilise à tort ou à travers le mot génocide. Je pense même, ça va peut-être te surprendre, qu'au contraire, parfois, il y a des réticences à utiliser le mot génocide lorsqu'il faudrait l'utiliser. Hein. Et je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans ce sectarisme communautaire où chacun va s'approprier du mot en disant « moi, c'est un génocide, mais toi, je ne suis pas tout à fait sûre hein. ». Donc, je n'ai pas envie de tomber là-dedans. Donc, moi, je vais pas me positionner comme ça pour savoir... voilà.
Non, mais c'est pas Je pense pas que ce soit dans un aspect communautaire, parce que
non,
je veux dire,
pas entre nous, non mais
parce
pas
que
ici.
C'est vraiment quelque chose de trop grave pour qu'on le saisisse comme ça. Mais je veux dire que bon, en plus il y a Ouria qui est algérienne. Je veux dire, on a entendu Erdogan dire qu'en Algérie il y avait un génocide. Donc il y a quand même. Enfin,
Et ça, ça l'arrange.
Il y a eu 10 ans en Algérie de guerre terrible, hein, donc de guerre civile. Les populations ont été massacrées. Il y a vraiment eu une exaction des milices Absolument. Islamistes aussi contre les populations dans les villages, etc. C'est vrai que ça a été terrible, ça a été des massacres. Alors, j'ai pas les chiffres parce que les chiffres officiels sont toujours en dessous de ce qui est la réalité. Mais c'est vrai qu'il a parlé Erdogan de génocide. Les Algériens aujourd'hui ne parlent pas de génocide, mais certaines associations parlent de crimes contre l'humanité. Effectivement, quand il y a eu des villages entiers massacrés, toutes les personnes massacrées, hommes, femmes, enfants et même animaux, c'est ce qui est terrible. Donc les gens qui sont survivants de ce qui s'est passé dans la décennie noire il y a quelques années en Algérie, effectivement, les associations de lutte contre le terrorisme et qui sont aux côtés des victimes aujourd'hui demandent à ce que soit reconnue leur souffrance, que ce soit reconnue comme crime contre l'humanité. Oui.
Quant à l'usage du mot génocide par Erdogan dans ce contexte-là, tu sais bien pourquoi il l'a fait. C'était au lendemain de l'adoption du texte de 2001 et c'est une histoire de provocation de la France.
Ça a été après la loi d'octobre 2006.
Oui. Même auparavant, il commençait.
Je voudrais juste terminer un peu si je peux. Non, mais ce que... Voilà, je suis toujours... Non, voilà, oui, ce que je voulais dire, c'est justement bon, par rapport à l'intervention internationale. Parce que justement, quand on dit plus jamais ça, et qu'on se raconte que régulièrement, X années après, on se retrouve dans tel fait, donc le plus jamais ça n'a plus aucun sens. Donc, et c'est pour ça que je regrette que Julien ait dû partir, parce que ça rentre dans la mobilisation citoyenne, et ça va au-delà du simple citoyen, c'est-à-dire que c'est au niveau international, que ce sont les instances internationales qui doivent être capables de juger à quel moment il faut absolument qu'elles interviennent. Bon, parce que c'est sûr qu'elle ne va pas intervenir tout ça comme ça, mais il y arrive un moment où elles peuvent être capables de dire « là, nous allons intervenir parce que nous commençons à être sur des massacres génocidaires, donc là, nous devons intervenir ». Et je crois que la mobilisation citoyenne, à ce moment-là, elle prend tout son effet, parce que dans chaque État et dans chaque pays, il faut que les citoyens s'accaparent de ces problèmes, s'accaparent de ces questions et interpellent leur propre gouvernement. Voilà, et pour moi, c'est ça, la mobilisation citoyenne. Absolument. C'est quelle formation, comment on le fait, etc. Voilà.
Absolument. Et je pense même, permets-moi, Anouk, juste d'intervenir, parce qu'après, je vais devoir vous laisser vous quitter. Et je pense qu'en amont, quand on pense prévention, il est fondamental, à mon sens, de prévoir les outils qui permettent de lutter contre le négationnisme. Parce que la négation, c'est la continuation, c'est la répétition. Et on voit bien que plus on nie les choses du passé, plus on donne de l'espace et de la place et des raisons pour que ça recommence de la même manière. Nous voyons le plus jamais ça, effectivement, ça me fait bien sourire parce que c'est un éternel recommencement. Ce sont les répétitions des mêmes choses, comme si on n'avait pas suffisamment d'éléments pour apprendre du passé. Et la lutte contre la négation, en ce sens-là et à mon sens fondamental rentre dans le cadre du débat que nous avons, et en matière de prévention, je pense qu'il est important de le garder à l'esprit.
Je vous propose de faire une petite pause musicale. Merci beaucoup Sevan, Ouria et Isabelle. On écoute Bratch avec Olivia Ruiz, l'Almé Phénomène.
Et regarde-la, cette fille qui danse et ne s'arrête pas, une merveille extravagante. L'allure très belle, ses mouvements sont lents et sensuels. Ton cœur devient marteau, légers sont ses mots pour nommer cette élégante.
Désir d'ivresse, charme magique, empreint de tendresse. La va la va la va la va, que d'imaginer sans ton cerveau une prêtresse qui te sert de la danse, la grand-messe. La va la va la va la va, qui te met la chair de poule à plein de peau.
Hypnotisé, les yeux exorbités, ensorcelés, déjà ton rêve se promène dans la fumée, par la musique doucement grisée. Le voilà qui bâtit la chorégraphie d'un ballet d'Almé Phénomène. Elle dessine d'une chimère les contours, elle envahit tes songes. Dans ses effets, partout tu vois les gestes d'une fée. Par sa beauté tu es pris, elle en est pétrie, c'est son fabuleux mensonge.
Une mélodie cherche à trouver sa place au soleil, sur le coin de ta lèvre, constamment spotée par un mégot. Désir et danse, sans faire nous des liens éternels.
La 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 la,
que dit sa jeunesse en ton cerveau. Ça prend le chemin qui lui plaît, c'est doux, comme les enfants et les rêves. Et pour longtemps, vivre pour un chacun comme le gitan, partir et mourir, à n'en plus finir, ne douter de la vie que la seule. Partir et mourir, à n'en plus finir, ne douter de la vie que la seule. De la vie que la sève.
Alors, nous sommes, la grenouille est toujours en direct des Docks des Suds pour Amnésie Internationale, cette manifestation. Donc, c'est des concerts, mais aussi un village de la mémoire animé par des associations et des expositions. Alors, avec cette année, des grandes bâches de Serra, dessinateur cambodgien. Alors, Serra, tu voulais réagir sur ce que tu as entendu dans le débat jusque-là ?
Je vais juste dire que, oui, effectivement, c'était... j'ai envie de dire que le génocide... on est en plein dedans, enfin, la négation du génocide au Cambodge. Il y a un tribunal qui, aujourd'hui, donc, a été mis en place pour juger les principaux responsables. Ceci étant, ils sont, pour un certain nombre, juste là en tant que responsables de crimes contre l'humanité. Pas de génocide. Il y a toujours une réticence incroyable à vouloir dire, ce qui est, ce qui s'est passé durant ces années au Cambodge. Et je pense que ce qui fait notamment défaut à toutes ces nobles personnes, enfin ces juges et tous ces intellectuels, c'est qu'ils regardent la situation cambodgienne avec des outils et un regard qui n'est pas approprié, qui n'est pas adapté par rapport à la spécificité de l'histoire khmer récente. Si on se reporte juste à un des derniers ouvrages d'études sur le mouvement des Khmer Rouges, le livre de Philippe Short sur Pol Pot, le titre m'échappe. Philippe Short qui, donc, dans une étude assez conséquente et assez intéressante sur le mouvement Khmer Rouge, nie la réalité du génocide. Pourtant, dans son ouvrage, à un moment donné, ce qu'il met en exergue et met en avant, c'est qu'une des particularités, des spécificités propres au mouvement du Khmer Rouge, c'est la part du secret. Il n'y a pas de traces. Et à partir de là, beaucoup de juristes estiment qu'il n'y a pas de génocide. Tant que les pouvoirs, les enjeux politiques continueront à agir en sous-main et à dire ce qui doit être des choses, on sera toujours dans cette négation, de toute façon. Je veux dire, en 79, quand le régime des Khmer Rouges s'est écroulé, ça n'a pas empêché l'ONU de continuer à maintenir la représentation du peuple cambodgien par des Khmer Rouges pendant les années suivantes. Donc la communauté internationale, donc nous. Ça, c'est une chose qui ne dérange personne. Moi, ça me blesse profondément.
Toi, tu es né à Phnom Penh.
Je suis né à Phnom Penh.
Et, en 61, d'un père khmer et d'une mère française, c'est bien ça. Et tu as quitté ton pays natal à 14 ans, au moment justement où les Khmer Rouges prenaient le pouvoir. Comment ça s'est passé?
De façon la plus simple qui soit, je veux dire, on s'est retrouvé devant des hommes en armes qui ont débarqué dans le quartier et qui hurlaient qu'il fallait donc que tout le monde apporte des affaires et parte à la campagne. Et puis ensuite, le bouche à oreille a fait que, ça a été en un instant, tout le monde savait ce qu'il devait faire. Et il n'y avait pas d'autre issue que d'obéir à ça. Encore que, donc, nous sommes restés encore une journée à la maison, la famille. Mais le lendemain, le surlendemain de l'arrivée des Khmer Rouges, il n'y avait plus une seule personne dans tout le quartier. Il n'y avait plus personne.
Maintenant, tu vis à Paris, c'est ça?
Oui.
Et comment tu en es venu à dessiner, donc en bande dessinée, cette page de l'histoire cambodgienne?
Comment? Parce que... parce que donc la bande dessinée a toujours été un de mes médias d'expression favoris. Enfin, je veux dire, depuis tout petit, je suis fasciné par ce médium, par les livres, par les images. Et donc, assez naturellement, quand j'ai voulu essayer de m'exprimer, ça a été la bande dessinée. Et puis la bande dessinée, parce qu'à cette époque-là, donc dans les années 70, 80, la bande dessinée était un média qui se destinait qu'aux plus jeunes, aux adolescents, donc avec des codes et un propos assez caricatural. Et j'ai voulu penser autrement à la bande dessinée à ce moment-là. Et donc j'avais l'ambition d'essayer de dire aux uns aux autres ce qu'il en était de cette histoire. Et ça a été un long travail qui s'est imposé. On ne décide pas de travailler dessus comme ça du jour au lendemain. C'est plus fort que moi et j'ai fait pour ne pas devenir fou, tout simplement.
Et donc il y a eu un triptyque, en fait, sur... tu peux nous expliquer un petit peu?
D'abord... donc j'ai commencé à écrire une fiction, un récit, donc qui s'ancrait dans les éléments que j'avais vécu à l'époque, sur la guerre donc de 70-75, jusqu'à la chute de Phnom Penh. Ensuite, donc ça c'est un travail que j'ai commencé en 87 et qui a trouvé son aboutissement en 1993, et le livre est paru en 1995.
Il s'appelle ?
Un passé rouge, qui est donc actuellement aux éditions Albin Michel. Et ensuite, il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir aborder la suite de l'histoire, dans tous les sens du terme, parce que donc l'histoire en question concernait la période après la guerre de 70, la période Khmer Rouge. Et c'est une période où je n'étais pas là, je n'étais pas au pays. Et il m'a fallu la rencontre avec Ritipan pour arriver à débloquer...
Ritipan, qui est donc le réalisateur du documentaire S21, La machine de mort Khmer Rouge.
Cinéaste avant tout, à mon sens. Et puis, quelqu'un qui fait effectivement un travail conséquent sur l'histoire et la mémoire. Et c'est lui qui m'a permis de, on va dire, décoincer un peu les choses et me faire prendre conscience que, effectivement, je n'étais pas au Cambodge au moment du génocide, mais que je devais faire ce travail. Donc j'avais toute la légitimité pour le faire, tout simplement parce que j'étais un praticien qui était capable de mettre en image cette période qu'il fallait le faire. Donc,
il y a un des albums, à ma connaissance, alors peut-être que plusieurs d'ailleurs, en tout cas L'eau et la terre, qui donc s'attache à la tragédie cambodgienne sous la dictature de Pol Pot.
Absolument.
Qui a été traduit en khmer et est donc accessible au grand public au Cambodge. Comment il a été reçu là-bas?
J'ai voulu déjà la sortie officielle de L'eau et la terre en 2005 à Phnom Penh. Ça s'est passé au Centre culturel français donc de Phnom Penh. Il y a eu une grande exposition et notamment à partir de mes dessins, ils ont réalisé donc des grandes bâches qui ont été exposées donc dans le centre. Et ma grande appréhension a été de me dire effectivement comment les Cambodgiens qui avaient vécu cette période allaient recevoir et percevoir ces images. Pour beaucoup, ça a été un choc parce qu'ils se retrouvaient devant leur passé. C'est un livre qui est difficile pour eux, mais je crois que voilà, il fait partie du paysage.
Et est-ce que ça reste un tabou profond ou les langues commencent à se délier autour du génocide?
Je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un spécialiste de la chose. Je constate que dans les rues, les gens commencent à en parler au niveau des individus. Au niveau de la société, c'est une autre histoire. Je veux dire que c'est un sujet encore tabou, on n'en parle pas. Politiquement, il est interdit d'en parler. Et ça se passe donc à deux niveaux.
Et en tout cas, il y a de réels... il y a des projets qui se mettent en place. Là, vous parliez de donc, traduction, mise en place... Enfin, on donne visibilité à votre travail là-bas au Cambodge. Et... Ritipan, donc, avec qui vous étiez en contact, le cinéaste, est en train de monter un centre d'archives cinématographiques.
Il l'a monté, ça s'appelle le centre Bopana.
D'accord, il l'a monté donc, et avec, si j'ai bien compris, avec Soko Fai Vakalis, qui est ici avec nous ce soir. Bonsoir.
Mais avant de parler du centre Bopana, on a commencé un peu plus tôt, quelque part, ce travail de transmission de savoir-faire au niveau artistique, si j'ose dire. Je veux dire que à partir de 2005, j'ai mené des ateliers d'écriture au Cambodge, et le tout premier donc remonte à 1999, donc il y a pas mal de temps, mais à l'époque le pays n'était pas encore mûr pour ça, enfin les gens trop ancrés dans des problématiques de vie et trop peu ouverts au monde extérieur. Aujourd'hui, les choses bougent très vite. Et donc, depuis 2005, j'ai mené des ateliers d'écriture pour amener la bande dessinée et donc pour permettre aux Cambodgiens d'utiliser ce média pour dire les choses. Et en mai prochain, va paraître une anthologie de la bande dessinée toute une nouvelle génération donc, d'auteurs khmers. Et ça va s'appeler Régénération. Et donc là-dessus, effectivement, on va étendre un peu ce travail auprès des jeunes, notamment donc avec la création d'ateliers là qui va toucher un travail plus douloureux, dans la mesure où le sujet, enfin le cadre du travail va concerner la mémoire. Là, ça va se passer au Centre Bopana.
Et Soko Faivakalis, donc toi tu es critique d'art, maître de conférences à Paris 8. Est-ce que, et donc tu travailles avec Ritipan sur ce centre, est-ce qu'actuellement il y a une vague d'artistes cambodgiens qui œuvrent pour la transmission de la mémoire?
Oui, bien sûr. Donc avant de. Il faudra que je puisse expliquer un peu le cadre du Centre Bopana. Le Centre Bopana existe, a ouvert ses portes depuis début décembre 2006. Donc l'origine de ce projet pour essayer de comprendre par rapport à la France, c'est l'équivalent de l'INA. C'est-à-dire que Ritipan avec Yupanaka, qui est cinéaste, qui est surtout connu comme monteur des films de Norodom Sihanouk, qui est une des mémoires vivantes de l'audiovisuel de l'histoire du Cambodge. Et tous les deux, Ritipan et Yupanaka, ont décidé de créer le centre audiovisuel du Cambodge, justement devant l'état critique, devant la destruction, la perte des archives. Donc ce projet a été mis en place qui permet de récolter en Europe et par le monde toutes les images qui concernent le Cambodge. Donc ça ne concerne pas spécifiquement sur la période Khmer Rouge, mais de récupérer des archives. On a par exemple des premiers documentaires des frères Lumière au Temple d'Angkor il y a plus d'un siècle. Voilà. Donc l'idée, c'est pour nous, enfin moi en tant qu'universitaire, que je travaille sur la question de l'art et de la transmission, c'est de mettre en valeur ces archives. Donc nous avons mis en place un programme de recherche et de solidarité entre la France et le Cambodge. Dans ce groupe de recherche, il y a, je pense qu'il est le plus important, l'originalité de ce groupe de recherche. Nous sommes tous déjà en sciences humaines, en histoire, en art plastique, en philosophie, en littérature. Nous avons tous travaillé sur l'histoire des génocides et les crimes de masse et travaillé sur la question du témoignage et de la transmission, notamment par l'écriture, par les œuvres mémorielles. Donc pour cette année, on a trois missions. Un qui vient de s'achever avec Sylvie Rollet et Michel Lagny. La deuxième mission, ce sera début mai. Au Centre Bopana, je partirai avec Pierre Bayard, qui est psychanalyste et professeur de littérature. Et nous, on va travailler sur la question du deuil et de la transmission, qui est fondamentale, bien sûr. Notamment, on va travailler sur les fantômes.
Les fantômes.
Oui, alors les fantômes, c'est qu'on s'est rendu compte, pour la question des génocides, c'est la question de la disparition. Donc pour réagir, pour compléter ce qu'a dit Serra, il y a une controverse sur la domination génocide par rapport au Khmer Rouge. Pour moi, pour ma part, il y a génocide, même si on reprend l'étymologie. Parce que dans génocide, il y a génos, en grec, qui a deux sens. À la fois la question de la race, qui donne aussi un autre mot, ethnocide. Et génos, ça veut dire aussi, et qu'on ne retient pas ou qu'on ne connaît pas, c'est aussi le groupement d'une même lignée, d'une même lignage. Donc c'est des familles d'une même lignée. Et les Khmers Rouges ont détruit, ont assassiné, pas seulement que des opposants politiques, parce que si on regarde les statistiques, ça représentait 5-6% sur les 25% de la population, 2 millions sur 8 millions. Et donc, la grande population a été assassinée et ceux qui ont été pris même comme opposants politiques, etc., ont tué aussi les enfants. On attaquait donc à la généalogie, on tuait les grands-parents, le réseau familial, etc. Donc quand on atteint à l'affiliation, pour moi il y a génocide. Notamment les slogans des Khmer Rouges, c'est on doit pas seulement couper le plan, mais on doit aussi déraciner, parce que ils ont peur que jusqu'à la troisième génération les survivants viendront se venger. Donc, travailler sur la question de la transmission sur les fantômes, c'est ce qui est une des spécificités du génocide, c'est la disparition. C'est-à-dire, on attaque à la filiation. Comment transmettre, comment comment se construire son identité si nos morts ont disparu, si on n'arrive pas à repérer leur corps. Donc tout ce travail est essentiel sur la mémoire. Donc pour revenir à l'atelier qu'on met en place à partir de fin juin avec Sarah, l'idée c'était de réunir deux artistes de mémoire, c'est-à-dire deux générations, donc Sarah et Vanat. Vanat qui est peintre et un des survivants de S21, de la prison S21 qui est transformée, qui est aujourd'hui le musée du génocide et qui est la personnalité, la référence même du film de Rétipane dans S21. Donc les deux artistes vont travailler ensemble. Et l'idée même qui avait été suggérée par Rétipane dans tout ce processus de la mémoire, c'était toujours impliquer les jeunes, la nouvelle génération. Et donc, dans cet atelier, on voudrait qu'il y ait une quinzaine, une vingtaine d'étudiants ou des jeunes artistes qui ne viennent pas forcément que de l'Université Royale des Beaux-Arts, mais qui est ouvert à tous. Voilà.
D'accord, merci beaucoup Soko et Sarah. Ce soir, à Amnésie Internationale, vont aussi se produire des musiciens. On a le plaisir d'en accueillir sur ce plateau. Bonsoir Bratch et bonsoir Vincent Baguian.
Bonsoir.
Alors Bratch, je crois, est un des partenaires de la première heure d'Amnésie Internationale.
Oui, on est venu jouer à la création d'Amnésie Internationale.
Et alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de venir ici ?
Ben, Amnésie Internationale, ça veut tout dire, quoi. Amnésie Internationale, c'est important de penser à tous les génocides qu'il y a pu y avoir. Il n'y a pas que le génocide arménien, il y a les Rwandais, bon, les Khmer Rouges aussi, tout ça. Pour nous, c'est important de participer à des choses comme ça, comme les Médecins Sans Frontières aussi. On va jouer aussi pour eux, on va jouer. Amnesty International aussi, on joue pour eux aussi.
Ouais, on fait des lapsus au dépôt.
Ouais, ouais, ouais.
Et vous trouvez qu'il y en a assez des manifestations comme ça, justement engagées, quand toute la manifestation est engagée?
Oui, il n'y en aura jamais assez, quoi.
Et Vincent...
Mais c'est déjà bien que ça existe, quoi. C'est déjà bien qu'il y a... Moi, quand j'étais petit, ça n'existait pas, hein, ça. C'est nouveau, quoi.
Ah.
Ouais.
Et vous, en quoi vous vous engagez dans votre musique?
Nous, on mélange tout dans la musique. C'est un peu notre engagement, déjà, qu'on mélange du grec avec du yiddish, avec de l'arménien, du jazz, du...
Vous faites dialoguer les sonorités.
Voilà, ouais. Et on vient jouer pour... quand les gens ont besoin, quoi.
Vincent Baguian, c'est votre première ce soir à Amnésie Internationale?
Oui, c'est ma première. J'espère que c'est pas ma dernière.
Et alors, ça représente quoi pour vous?
Ben souvent, quand on est chanteur, on est un peu inutile. Donc voilà, pour une fois qu'on peut être utile, c'est bien d'être là. Et puis, il n'y a pas que les chanteurs. Il y a beaucoup de bénévoles, il y a des techniciens. Tout le monde participe et c'est ça qui est agréable. En plus, nous, on se fait applaudir.
Ben, les chanteurs attirent du monde et après, il y a d'autres gens pour en parler, quoi.
Et vous êtes d'origine arménienne.
Oui.
Et vous avez écrit une chanson justement à ce propos qu'on va écouter tout de suite. Mais avant, ce serait bien que vous en parliez. C'est « Je suis une tombe ».
En fait, j'ai un problème avec le génocide arménien parce que je me trimballais cette douleur depuis longtemps. On me l'avait refilée, mais je ne savais pas trop à quoi elle tenait puisque moi, je n'ai pas vécu le génocide. Et j'essayais plutôt de m'en débarrasser qu'autre chose. Et j'ai lu la thèse d'une psychanalyste qui expliquait que quand on appartient à un peuple qu'on a essayé d'éradiquer et qu'on la génération qui vient juste après est dans la...
Attention.
Je viens de me faire génocider.
Par Charlie Couture.
Ouais. Entre artistes, on se tue.
Qui vient de débarquer sur le plateau, qui n'a encore pas de micro, mais on va lui en trouver un.
Donc je vous disais que quand on appartient à un peuple qu'on a essayé d'éradiquer, ceux qui survivent sont dans la résistance, la génération d'après est dans la reconstruction, et ceux qui viennent ensuite n'ont comme alternative que de récupérer la douleur et ne savent pas trop quoi en faire, et ils se transforment en tombes à la mémoire de leurs ancêtres. C'est ce qu'expliquait cette thèse. Et quand j'ai lu je me suis effondré alors que je pensais que je m'étais débarrassé de cette douleur. Et je me suis dit, j'ai pas d'autre alternative que d'écrire une chanson là-dessus. Il y avait une mélodie arménienne que mon père me faisait écouter quand j'étais jeune, qui s'appelle Ingala, qui m'a jamais quitté. Et j'ai décidé de mettre un texte qui parle de tous les génocides sur cette musique.
Qu'on va écouter tout de suite alors.
Savoir où je vais, si je ne sais pas d'où je viens, où est passé mon passé, je recherche sans fin le début d'un chemin. Comment savoir qui je suis, sans savoir de qui je tiens, je suis à moi-même étranger, en ne connaissant rien du nom qui est le mien. Moi, je suis la tombe d'une partie du monde. J'y peux rien, je suis là, je suis l'ombre au milieu des décombres. Pour comprendre l'histoire, je deviens la mémoire. Avant de te prendre la main, il faut que ma peur cesse enfin. Au fond de moi reste gravé que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Moi, je suis la tombe d'une partie du monde. J'y peux rien, je suis là, je suis l'ombre au milieu des décombres. Pour comprendre l'histoire, je deviens la mémoire. D'un pays, mais de toutes les Arménies. Quand s'ajoute à la blessure l'insoutenable injure des morts que l'on renie. Moi, je suis la tombe d'une partie du monde. J'y peux rien, je suis là, je suis l'ombre au milieu des décombres. Pour comprendre l'histoire, je deviens la mémoire. Moi, je suis la tombe d'une partie du monde. J'y peux rien, je suis là, je suis l'ombre au milieu des décombres. Pour comprendre l'histoire, je deviens la mémoire.
Vincent Baguian, la grenouille est toujours en direct des Docks des Suds pour Amnésie Internationale. Charles-Élie Couture va...
Tu peux dire oui. Charles-Élie. Hein,
Charles-Élie va se produire ce soir sur la scène des Docks et nous a donc rejoint. Donc c'est ta première aussi pour Amnésie Internationale.
Oui.
Qu'est-ce que... Alors le sous-titre de la mobilisation, de la manifestation, pardon, c'est mobilisation citoyenne. Alors qu'est-ce que dans ton dernier album, et puis en général, Charles-Élie, tes textes sont assez engagés. Alors quel est selon toi le rôle des artistes dans cette mobilisation citoyenne?
Qu'est-ce que tu entends par assez?
Très.
Tu t'engages ou tu t'engages pas en fait. La vie c'est comme ça, il n'y a pas de truc à moitié quoi. Être un artiste,
on a écouté tout à l'heure bien. Parce que juste n'était pas là. On a écouté une certaine lenteur rebelle.
Ah oui, par exemple. Mais être un homme, c'est mieux, quoi. On fonctionne avec une conscience. C'est vrai que souvent la chanson et les arts sont associés à la distraction. Mais être un artiste, c'est aussi, et avant tout, réagir au monde d'une manière sensible, émue. Et les sujets que j'aborde, que j'écris, sont des sujets qui sont inspirés par la vie que je mène. Donc ils sont très, très écrits au quotidien, si je puis dire. Je crois que si les artistes ont une raison d'être, c'est de dire à haute voix ce que d'autres pensent en silence. Et c'est notre fonction, quoi. C'est notre raison d'être. Et c'est pour ça que je suis là à ce titre-là.
Tu penses qu'ils le font assez aujourd'hui ?
Je pense que le système interdit aux personnalités de s'exprimer, ça c'est sûr. Le système aujourd'hui est devenu extrêmement commercial et on juge de l'importance d'un artiste en fonction de son succès commercial. Une chanson aujourd'hui, elle a son sens et sa valeur en fonction du nombre d'exemplaires vendus. Alors qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Une chanson, l'importance, par exemple, chanson qu'on vient d'entendre, n'a pas de grande chance en termes de succès en tant que tel. Mais par contre, elle est remplie d'une émotion qui, à mon avis, est partagée par tous les gens qui ont cette même expérience que celle qu'il a décrite, parce qu'elle est écrite avec... avec sincérité et sans forfanterie, sans manière. Donc c'est pour moi une chanson à sa manière qui est importante. Mais par contre, aujourd'hui dans le monde des médias et des grandes généralités, eh bien, la seule chose qui compte c'est le succès commercial et je trouve ça inouï, quoi. Et enfin, disons tristement.
Merci beaucoup Charles Couture.
Bonjour.
Bon concert.
Merci, volontiers, ça marche.
On va terminer sur le Rwanda avec deux invités, Jeanne Wimbabazi, qui est rescapée tutsi du génocide rwandais, et Iga Legri, fondateur de l'association Passeurs de mémoire. Alors Jeanne, tu es désormais citoyenne française, mais tu te rends régulièrement au Rwanda. Comment ça se passe aujourd'hui, la cohabitation entre rescapés et génocidaires, puisque de nombreux génocidaires sont maintenant sortis de prison?
Alors, la cohabitation, elle est, comme on peut l'imaginer, assez difficile. Parce que, voilà, il y a eu un génocide au Rwanda entre Hutu et Tutsi. Ce sont avant tout les Rwandais qui vivent dans un même pays. Et donc, après le génocide, il faut arriver quand même à vivre ensemble, sachant que, voilà, il y a eu des victimes et des bourreaux. Le Rwanda a fait avec le et continue à faire avec les moyens qu'il a pour juger ces génocidaires-là. Maintenant, je crois qu'il y a eu une estimation qui a été faite en disant que si jamais on doit juger tous les génocidaires par les voies normales, par les tribunaux classiques, ça pourrait prendre 150 ans. Et le Rwanda n'a pas ni les moyens humains ni matériels pour juger ces génocidaires-là par les tribunaux, je dirais, classiques. Donc on a mis en place ce qu'on appelle les tribunaux traditionnels, les gachacha, pour essayer d'avancer dans les jugements des génocidaires, pour permettre donc, une certaine justice quelque part. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de génocidaires qui ont été jugés par ces tribunaux, mais en même temps, ça a un inconvénient, c'est qu'ils peuvent sortir plus tôt selon des critères qui ont été mis en place, c'est-à-dire s'ils avouent, ils ont la moitié de leur peine déjà de diminuer, et si, enfin, il y a plusieurs critères comme ça, ce qui fait que peut-être au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, ils peuvent se trouver dehors, bien qu'ils aient tué des gens. Donc les rescapés, ils se retrouvent à vivre avec des gens qui ont tué leur famille, voire qui les ont blessés. Et c'est très difficile, surtout pour les rescapés, parce qu'en plus, les génocidaires, en général, ils sont dans un déni. Ils avouent juste pour avoir souvent leur peine de diminuer, mais ils n'ont aucun remords. D'ailleurs, ça se voit dans d'autres génocides, c'est que souvent, les bourreaux, ils sont dans un déni total de ce qu'ils ont fait.
Oui, et puis c'est Jean Hatzfeld aussi qui a écrit Une saison de machette, où il a fait des entretiens avec les bourreaux, et il montre bien que les seuls cauchemars qu'ils font, c'est la vie qu'ils mènent en prison, pas du tout les actes qu'ils ont commis.
Oui, souvent, d'après ce qu'on me raconte au Rwanda et ce que j'ai pu entendre ici, sur place, c'est que les génocidaires, ils regrettent leur vie d'avant. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient une maison, ils avaient des terres, ils ont été en prison, ils ont pas pu s'occuper de leur champ comme le faisaient avant, ou ils ont perdu un certain mode de vie. Mais en aucun moment, ils évoquent le génocide, la peine qu'ils ont pu provoquer chez les rescapés, ça, ils n'en parlent jamais. Donc, la cohabitation aujourd'hui, oui, c'est vrai que la politique actuelle au Rwanda, c'est d'essayer de faire vivre ces deux ethnies ensemble. Maintenant, en plus, on ne parle plus ni de Hutu ni de Tutsi, justement parce que ça, auparavant, c'était marqué dans les cartes d'identité. C'est ça aussi qui a servi à trier, j'allais dire, les Tutsi pour les assassiner. C'est que c'était marqué dans les cartes d'identité si on était Tutsi ou tout, toi.
Par les Belges, hein. Il faut le rappeler aussi, quand même.
Oui, à la base. Et maintenant, on parle que de Rwandais. Et voilà, on essaie de vivre ensemble, mais c'est vraiment pas évident parce que pour les rescapés, c'est quelque chose d'assez lourd.
Igal, toi, tu reviens juste du Rwanda. Tu as passé 2 mois pour réaliser un documentaire sur le travail de mémoire. Alors toi, comment tu as perçu ça, l'atmosphère du pays là-bas, et comment se passe cette cohabitation ?
C'est un peu difficile à dire parce que je débarque à peine de Kigali il y a quelques jours. Et c'était pas la première fois que j'allais au Rwanda. Enfin, j'avais déjà été l'année dernière, notamment avec Jeanne. On avait participé à un voyage ensemble. Alors, c'est un plaisir de te retrouver ici ce soir. Une petite touche gay quand même. Et j'ai envie de répondre à ta question, mais à la fois j'ai pas vraiment les mots pour y répondre parce que j'ai pas encore assez de recul par rapport à ce que j'ai vécu pendant 2 mois là-bas.
T'as fait beaucoup de collectes de témoignages ?
J'ai pas arrêté, c'est sûr que quand on a une caméra là-bas, c'est à la fois on est rejeté, à la fois on est accueilli les bras ouverts, parce que c'est pas évident de... Je pense que le Rwanda aujourd'hui est tellement meurtri, même 14 ans après, qu'ils ont peur de ce qu'on peut vous montrer, que ce soit en Occident, enfin à l'extérieur du pays. Donc moi je suis arrivé comme un petit conquérant, comme ça, en disant je vais faire un documentaire, et puis après je suis arrivé là-bas, j'ai vu des amis qui travaillent sur la mémoire, et en discutant avec eux, ils m'ont dit « il n'y a pas de problème, tu filmes, il n'y a aucun problème ». Moi j'ai dit « non, je veux avoir l'autorisation de le faire, je ne veux pas prendre le risque de par souci d'éthique ou par souci... » Donc c'est vrai que le fait d'avoir après un accord du ministère de la Jeunesse et de la Culture là-bas, une autorisation écrite, quelque chose de purement formel qui m'a pris 2 semaines à avoir, m'a aidé à me faire accepter et à atteindre des personnalités, quand je dis personnalités, c'est pas forcément des gens connus, mais des hommes et des femmes qui avaient des choses à dire et qui n'avaient pas forcément eu la possibilité de le dire jusqu'à maintenant. Et en termes de réconciliation, c'est assez difficile à dire parce que au jour d'aujourd'hui, le Rwanda sort d'un génocide qui a eu lieu il y a 14 ans. Je travaille dans le cadre de mon association, on travaille sur les génocides en général. Là, la spécificité, entre guillemets, si je puis me permettre, de ce génocide, c'est que c'est des voisins. C'est des habitants d'un même village. C'est des fois des membres d'une même famille, par alliance ou pas par alliance, qui se sont entretués. Et aujourd'hui, le processus de réconciliation est à la fois, je pense, indispensable, nécessaire, mais le problème, et là c'est moi qui parle, c'est pas un jugement que je fais par rapport au gouvernement en place et par rapport à ce qui peut se passer au Rwanda, au travail qu'il y a au Rwanda. Mais je pense que ce processus de réconciliation, il empêche un travail de reconstruction de la part des deux parties, à la fois des rescapés, en termes de leur intégration dans la société et dans leur vie en tant qu'être humain, parce qu'être seul au monde, Je fais pas de référence. Je fais pas de référence à qui on pense. On va pas rentrer dans la polémique. Mais être seul aujourd'hui, dans un pays comme le Rwanda, entouré de ses bourreaux, comment une personne peut... Un enfant peut grandir si à l'école on lui dit, on lui raconte pas ce qui s'est passé, et à la maison il est au courant qu'il a perdu ses parents, qu'il a perdu ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes.
Parce qu'à l'école on n'enseigne pas le génocide, on n'enseigne pas l'histoire du génocide.
Je pense qu'on évite ces sujets. Je pense que Jeanne sera plus à même de répondre. Je pense qu'on évite ces sujets pour justement pour ce processus de réconciliation.
Je crois que pour l'instant, c'était trop tôt. Ils ne savaient pas comment enseigner justement l'histoire du génocide dans les écoles. Ils étaient en train d'étudier ça justement pour savoir comment amener à enseigner cette histoire qui est très récente. Et c'était compliqué encore. Ils étaient en train de réfléchir.
Donc ce qui est très paradoxal au Rwanda, et ça je l'ai vraiment ressenti dans ce second voyage que je viens de terminer, c'est qu'à la fois, comme le dit Jeanne, il y a cette difficulté de savoir comment transmettre l'histoire du génocide, et à la fois il y a un travail extraordinaire qui est fait en termes de souvenirs et de transmission de la mémoire, ne serait-ce que par la construction de sites mémoriaux. J'en citerai un parmi tant d'autres, c'est le site de Guy Sozi à Kigali, qui a été entre autres, et c'est un peu le sujet du film que j'essaye de monter en ce moment, c'est entre autres qui a été créé en collaboration avec le musée de l'Holocauste de Londres, par une fondation qui s'appelle Aegis Trust. Et ce lien qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité entre professionnels de la mémoire de la communauté juive du fait de la Shoah et les rescapés Tutsis. Et ce travail de mémoire qui est fait au Rwanda, c'est-à-dire que quand on parle de réconciliation et qu'on voit que c'est pas enseigné à l'école ou que c'est pas, on n'a plus le droit de dire Hutu, on n'a plus le droit de dire Tutsi dans la rue, et qu'il y a ces sites mémoriaux qui sont présents partout, parce que quand on prend la route avec, au Rwanda, c'est des sites mémoriaux partout, c'est de la couleur violette partout, c'est des cimetières partout, et à la fois on n'en parle pas dans les officiellement, quoi. C'est assez étrange. Peut-être pas assez de recul encore, mais c'est assez. Je souhaite vraiment que, comme pour la Shoah, on a attendu des années et des années avant d'en parler. On a attendu des années. Et là, aujourd'hui, en 14 ans après, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et le matériel qu'il y a aujourd'hui au Rwanda, c'est. Je trouve que, pour la proximité des événements, je trouve que c'est extraordinaire, quoi. Il faut continuer. Il faut encourager.
Et t'as rencontré des enfants de génocidaires ?
J'ai pas rencontré d'enfants de génocidaires cette fois-ci, mais j'en ai rencontré quand j'étais au Burundi l'été dernier.
Et alors, comment ça se passe pour eux ? Comment ils vivent ces moments actuels, cette réconciliation ? Enfin, comment eux, ils se positionnent ?
Il y a quelque chose qui est assez étrange dans cette région. On en parlait avec Jeanne tout à l'heure autour d'un café. C'est le pouvoir de l'Église. J'ai rencontré un jeune... Qui disait, quand j'étais enfant, les Tutsis, c'était les cafards, on nous apprenait qu'il fallait les exterminer, qu'il fallait. J'étais le premier à applaudir les Interahamwe, qui sont les milices du Hutu Power pendant le génocide en 94. J'étais le premier à les applaudir quand ils s'entraînaient, je m'entraînais avec eux, j'étais enfant. Et quand les événements se sont déroulés, il a été évacué parce que il nous racontait que lui aussi était menacé parce qu'il était dans le nord du pays et que le FPR arrivait, donc il y avait des menaces dans tous les sens. Et après, la religion catholique est venue à lui, il s'est mis à croire en Dieu, et sachant tout ce que l'Église catholique a fait dans cette région et qu'on sait qu'ils font partie des responsables du génocide, comme ils ont été responsables pendant la Shoah, comme je ne suis pas en train de dénoncer, mais c'est scandaleux ce qui s'est passé. C'est vraiment scandaleux. Et lui me racontait dans une interview, il me disait, c'est Dieu qui m'a sauvé, et aujourd'hui je prie, et j'ai compris que les Tutsis sont mes frères, et que Mais par contre, il n'est pas rentré dans les détails. Je sais que son père est mort et que son oncle est en prison et qu'il est meurtri par ça parce que ça reste un être humain. Lui n'a rien fait en tant qu'enfant. Mais il a, c'est la religion qui l'a ramené à un petit peu d'humanisme alors que la religion chrétienne a voulu enlever l'humanité dans cette région.
Et souvent aussi, ce qui se passe, c'est que même pour les familles de Hutus qui n'ont pas participé au génocide, encore plus pour ceux qui ont participé, leur discours, c'est de dire il faut arrêter de ressasser le passé. Ça, c'est du classique en même temps, du négationnisme. Il faut arrêter de ressasser le passé parce que sinon, on ne va jamais avancer ensemble. Sinon, ça sera toujours des divisions entre les Hutus et Tutsis. Il faut, limite, il faut oublier et aller plus vers l'avant et non regarder le passé, ce qui est super dangereux, évidemment, et on peut comprendre que ça les arrange.
Tout à l'heure, on parlait de négationnisme dans la discussion. Et quand j'ai beaucoup travaillé au mémorial de Guy Sozzi et des responsables du mémorial me disaient, là-bas, à Guy Sozzi, c'est 250 000 corps qui sont enterrés dans des fosses communes. Et régulièrement, il y a des gens qui viennent, des Rwandais, et qui viennent et qui demandent à faire déterrer les corps pour qu'on leur... Alors, est-ce que c'est une manière de prouver ou... Nous, dans notre culture, moi, la première fois que j'étais au Rwanda, que j'ai vu tous ces corps conservés à la chaux, j'en ai témoin, on a tous été complètement perturbés par ça. Mais quand on creuse dans l'histoire du Rwanda et dans l'histoire du génocide, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, mais on peut comprendre aujourd'hui le besoin qu'ils ont. C'est un tout petit pays, le Rwanda. C'est deux départements français. On est en devoir de comprendre aujourd'hui la nécessité qu'ils ont d'avoir une reconnaissance de ce qui s'est passé, une reconnaissance de leur existence aujourd'hui parce qu'ils existent aujourd'hui et qu'ils ont envie d'avancer. Et on ne va pas rentrer dans le débat responsabilité de la France ou pas. Je veux dire, ça va être très long.
Oui. Mais c'est important d'évoquer quand même.
C'est important d'évoquer que Kouchner était là il y a un mois. Et moi, j'étais sur place. Je suis arrivé deux jours après. J'y étais en même temps, je ne me souviens plus. Et les Rwandais étaient à la fois contents qu'un représentant français vienne à Kigali, mais à la fois, bon, ça a été complètement effacé par la visite de Bush trois jours après. Mais choqué par son discours qui disait en 1994, ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, et Bernard Kouchner, présent au Rwanda pendant le génocide et qui a essayé d'alerter la communauté internationale et qui aurait dit c'était une erreur politique. Bah, les Rwandais aujourd'hui, on comprend pourquoi ils se rapprochent des États-Unis et pourquoi ils ont accueilli Bush avec autant de ferveur, quoi. Enfin, voilà.
Merci beaucoup, Jeanne et Yael, d'être venus parler du Rwanda. On va s'arrêter là parce qu'on va s'arrêter là et que les concerts vont commencer. Vous pouvez encore nous rejoindre au Doc des Suds, où vont donc se produire sur scène Vincent Baguian, Bratch, Kierenan et Charlely Couture. Merci à tous ceux qui sont intervenus sur ce plateau, Sévan Garibian, Isabelle Marillier, Ouria Mekrelouf, Soko Faivakalis, Jeanne Ouimbabazi, Serra, Julien Dikranarounian, Bratch, Vincent Baguian et Charlely Couture. Merci à Tony et Yann et Henri pour la technique et la coordination. Bonne soirée à tous, salut. Thank you.